franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 à 9.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite, avec Yann Bouillot et Nicolas Slimani à la technique, et assisté de Stéphane Combes et Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Comment cela ? Il ne se passe rien sur le front de l'environnement. Bon, je vous l'accorde, c'est pas exactement un sujet très envahissant actuellement sur les présidentielles. Mais si, quand même, notre ministre s'est volatilisé, hop, enlevé comme porte-parole du président candidat. Elle vogue aujourd'hui entre deux sondages électoraux avec la mère Égée de l'affiche en toile de fond. Alors c'est vrai que c'était pas arrivé depuis 1971 qu'on n'ait pas de ministre de l'Environnement. Parti sans même laisser une offre de boulot intérimaire, quoi, je sais pas, un CDD de 2 mois. Ça aurait peut-être pu arranger quelqu'un. Alors c'est peut-être un peu rapidement que l'on s'est offusqué de cette vacance, je dis bien au singulier parce qu'au pluriel ça aurait été un peu plus anodin. Mais évidemment, découvrir que l'écologie est soluble dans Matignon, ça peut déconcerter. Bon, de là à penser que les questions environnementales sont tenues pour quantité négligeable par le gouvernement, il n'y a qu'un pas hâtivement franchi. D'ailleurs, certains écologistes ne manqueront pas de rappeler le désormais célèbre « l'environnement, hein, ça commence à bien faire ». Et pourtant, il y a une explication toute simple. Et oui, tout le monde a entendu parler du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Eh bien, pour les ministres, dorénavant, c'est pareil. On ne remplace un ministre que si l'un de ses collègues a déjà quitté le gouvernement. Voilà, je pense que c'est ça l'explication. C'est la crise. Ben oui, c'est comme ça. Une crise qui connaît même un développement durable. Par contre, il y a un ministre qui reste particulièrement actif, c'est Éric Besson. Ça ne signifie pas d'ailleurs radioactif. Même en se rendant sur le site de Fukushima, Éric Besson demeure inflexible. Le nucléaire n'a rien d'inquiétant, ce sont les tsunamis qui ne font rien qu'à torpiller cette belle filière énergétique. Et le ministre s'est dit rassuré par les propos que lui a tenus le directeur de TEPCO, donc l'exploitant privé de la centrale japonaise, qui ne serait pas rassuré d'ailleurs par le discours objectif d'une personne affichant une neutralité absolue dans cette affaire. Donc il faudra peut-être expliquer cela à une délégation d'élus de communes françaises, de tous bords politiques d'ailleurs, accueillant les installations nucléaires sur leurs territoires respectifs, et qui eux aussi ont visité Fukushima. Ils étaient un peu plus inquiets, ils n'avaient pas le même enthousiasme. Mais comme on est en France, donc pays d'école, de chapelle et qu'on reste assez binaire, donc on nous le martèle traite depuis très longtemps, c'est le nucléaire ou la bougie, il n'y a pas d'autre solution. Et ça tombe bien, car à Fukushima, on s'apprête à souffler la première bougie commémorant la catastrophe. Et enfin, bah tenez, cette semaine, Jean-Luc Mélenchon traitait Marine Le Pen de chauve-souris. Eh bah, je suis désolé, c'est un compliment, parce que ce petit mammifère pollinise certaines plantes et est un puissant insecticide naturel qui nous débarrasse de dizaines de milliers d'insectes par an. Alors certes, la candidate FN a la volonté de débarrasser la France d'un certain nombre de personnes qu'elle considère, elle, comme nuisibles, mais, amis rhinolophes, pipistrelles, grands murins, ne vous arrêtez pas à cela. Continuez à embellir la nuit, vous votez pour qui vous voulez, mais ce n'est pas une insulte, on vous le dit. Nous faisons partie du mouvement de réhabilitation de la chauve-souris, vous l'avez très très bien compris. Nous allons parler de l'Île-de-France. Bonjour Michel Riotto.
Bonjour Denis Chessou.
Vous êtes le président d'Île-de-France Environnement, donc, qui regroupe alors aujourd'hui un bon nombre d'associations, près de 380 associations en Île-de-France, ça fait près de 40 000 adhérents. Quelques données quand même sur nos 8 départements.
Alors, l'Île-de-France est la plus petite région française, 2% du territoire, 11 000 km² environ et 1280 communes. Oui. Elle contient 20% de la population française, mais aussi elle produit 30% du produit national brut.
Et alors si on découpe ça en zone agricole, en forêt, qu'est-ce que ça représente
hein? 50% de l'Île-de-France, ce sont des zones agricoles ou forestières.
Mmh. Et donc ça fait 20-25% d'infrastructures et de logements, quoi.
Absolument. Et puis toutes ces infrastructures, ça mange de la terre. Voilà. Et c'est ça qu'il va falloir que l'on discute un petit peu.
Voilà. Donc on a donc cette plaie. Enfin, en même temps, ça a permis à des tas de gens d'être heureux. Mais donc l'étalement urbain. urbains que l'on connaît. Pour vous, c'est un des premiers problèmes. Et puis, donc, on va faire un focus extrêmement intéressant sur la Seine-et-Marne. Pourquoi ? Parce que la Seine-et-Marne en Île-de-France représente 49% quand même de ce territoire, de cette région. Donc, c'est extrêmement important. Et là, on va donner un petit coup de loupe sur deux problèmes.
Oui, on va donner un petit coup de loupe sur deux grands problèmes de Seine-et-Marne, c'est-à-dire les huiles de schiste. Hein. On veut produire de l'énergie non renouvelable et on veut aussi y déposer de nombreux déchets. Alors, il faut savoir que la ville, quand elle se crée, la métropole, elle se crée toujours dans une région riche. Ce qui lui permet de se nourrir, qui lui permet d'avoir de l'eau, qui lui permet d'avoir du bon air. Et ça, cette ville, eh bien, en s'étendant, eh bien, elle mange son territoire, elle mange les terrains qui la nourrissaient dans le temps. Et actuellement, si on continue à s'étendre comme ça, dans, disons, vers 2050, il n'y aura plus suffisamment, même en France, de surfaces agricoles qui permettent de produire suffisamment de denrées pour la population française.
Alors, les associations veillent, une fois de plus, on va mettre à l'honneur les associations, pardonnez-moi, donc aujourd'hui. Donc, vous l'avez bien compris, à la fois grignotage urbain, huile de schiste, Seine-et-Marne et décharges, c'est au menu. On en parlera d'ailleurs aussi avec Franck Roland qui nous rejoindra. Donc, c'est le menu de cette émission. Mais on va se faire plaisir aussi. Bah alors, musique. C'est Maillère au Sorn que nous accueillons sur France Inter. Et le titre, eh bien, c'était A Long Time, France Inter, CO de mon amour. Nous sommes en direct, nous parlons de l'Île-de-France. A Long Time, ben oui, il en faut du temps aussi pour que se décomposent les végétaux, les matières organiques, et que ça se transforme soit en pétrole, soit en gaz, soit en charbon. Alors, Michel Riotto, donc là, on va s'intéresser donc à la Seine-et-Marne. Très beau département par ailleurs, hein, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Blandy-les-Tours. Si vous allez dans la vallée du Timorin, c'est superbe. La butte de Doubs, le canal de Lourdes, enfin j'en passe et des meilleurs, mais sûrement, je tiens à dire ça tout de suite, parce que là on a deux sujets un peu lourds, c'est-à-dire l'huile de schiste et les déchets, mais quand même, c'est un beau département. Michel Riotto, pourquoi en fait ce bassin est privilégié pour la fabrication, on va dire, du pétrole ?
Alors ça remonte à très longtemps. C'est dans les aires géologiques du primaire et du secondaire. Alors au primaire, il y avait énormément de végétaux. C'était un bassin très riche en végétaux. Mais au secondaire aussi, les végétaux se sont enfoncés dans les lagunes. Ça a été recouvert par de l'eau chaude. De nombreuses microbes sont venus, ont colonisé tous ces végétaux, les ont transformés progressivement. Ils se sont enfoncés de plus en plus sous le sol, recouverts par des tas de couches, et se sont transformés. Alors ceux du primaire se sont transformés en charbon, ceux du secondaire se sont transformés en pétrole. Et ce pétrole, il a été enkysté dans des roches. Alors vous avez deux types d'enkystage. L'enkystage dans des zones, dans des roches microporeuses, et ça vous donne le pétrole traditionnel que l'on a recueilli en Île-de-France, qu'on a trouvé en Île-de-France dans les années 60. L'Île-de-France produisait avec le Parentis autour de 1% de la production française, des besoins français en pétrole.
Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production française, que ce soit en Aquitaine ou bien principalement en Seine-et-Marne, représente 1% de la consommation de notre pétrole.
Moins que ça maintenant, beaucoup moins que ça. Peut-être 1% quand c'était en pleine production maintenant.
Et autant de gaz, il me semble aussi.
Oui, autant de gaz.
D'accord.
Alors, le deuxième type de roche est ce qu'on appelle des schistes. Ce sont des roches. Le schiste, ça ne veut pas dire que ça soit la nature de la roche. C'est l'aspect feuilleté. Et ce sont des sédiments argileux qui renferment du pétrole, mais alors elles ne le laissent pas sauver, elles ne le laissent pas partir. Et donc, il faut inventer des techniques nouvelles pour les recueillir.
Et c'est pour ça qu'on a découvert donc ce mot de fracturation hydraulique. Donc, ces mots qui c'est depuis très longtemps, on pratique cette méthode, faut bien le dire. Je crois que c'est dans les années à peu près 40-45, mais... C'est arrivé dans notre vocabulaire il n'y a pas si longtemps. Et ce que je vous propose, c'est de partir donc, en reportage sur le terrain. C'était la semaine dernière. Et donc, nous allons entendre à la fois Jeanne Buisson, qui est la présidente de Nature Environnement 77, Marie-Paul Duflo, qui est la vice-présidente, Daniel Salomon, qui est chimiste, et Serge Rosier-Rollin, qui est le maire de Donne-Marie-Dontilly. Puis, je voudrais aussi remercier ma collègue du Parisien, Faustine Léo, parce qu'elle fait un boulot formidable et elle couvre ça depuis des années sur la Seine-et-Marne. Et donc, elle nous a été extrêmement précieuse. Allez, on y va.
Qu'on nous explique sur ce panneau de bienvenue, oui. En cas d'urgence, on a un numéro, voilà, chantier interdit au public, autorisation de travail. Donc face à une plateforme vide, oui. Absolument vide, il y a des drôles de panneaux, il y a un panneau triangulaire avec des émanations de produits dangereux, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, on a tout lieu de ne pas y rentrer, enfin on nous interdit l'entrée. Par contre, c'est vrai que c'est très symbolique parce que vous avez deux, trois fils de fer qui se bataillent là.
Et qui ont poussé il n'y a pas si longtemps.
Non, c'est tout récent. En tout cas, le portail est très bien entretenu. Il est vert, on voit qu'il a été repeint il n'y a pas longtemps. Un cadenas tout propre.
C'est déjà très bien ça, oui. Tout y est, donc on ne va pas rentrer. Marie-Paul Duflo, enfin, il me semble que vous avez un petit peu découvert avec votre association donc, ce lieu.
En se promenant avec les Cartigènes au 25e, on est arrivé un jour sur ce secteur et on a découvert, je pense que c'était une vingtaine de gros camions tonnes, c'est-à-dire des énormes camions qui contiennent de l'eau, et peut-être autre chose que de l'eau d'ailleurs, et puis une centaine de sacs de chlorure de potassium.
Bon, donc ça veut dire qu'on est dans un endroit où en fait on souhaite faire de la recherche pour de l'huile de schiste.
Voilà, et que ce matériel-là a été prévu pour faire de la fracturation hydraulique.
Alors, que nous dit la loi et où en est-on sur ce thème ?
Aujourd'hui, la loi dit que toute fracturation hydraulique est interdite. Oui. Donc effectivement, les camions ont disparu, les sacs de chlorure de potassium aussi. Et je pense que les pétroliers, quelque part, attendent que la loi évolue pour pouvoir à nouveau fracturer.
Quels sont les risques ? Bon, on connaît le gaz de schiste, on en a parlé, ça c'est un terme générique, mais là on est bien sur de l'huile de schiste. Mais donc, quels sont les risques de la fracturation ?
Déjà, qu'est-ce que c'est que la fracturation ? Il faut expliquer quand même ce que c'est. On met de l'eau dans le puits et on pousse très fort, tellement fort qu'on ne met personne autour quand il pousse, parce qu'en cas d'explosion, il y a l'acier qui vole. Alors, on pousse avec de l'eau. Alors l'eau, elle peut tomber dans des fissures, il y a un peu de fuite. On consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. L'idée, c'est de pousser sur le schiste pour ouvrir des fractures, histoire que le pétrole vienne jusqu'au trou et soit collecté.
Ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même énormément d'eau pour sortir une tonne de pétrole.
Oui, on en utilise énormément. Où est-ce qu'on va aller chercher l'eau pour fracturer ? Ça, je me pose des questions.
Alors Serge Rossière-Rollin, vous qui êtes maire donc, de cette commune, donc, qui n'est pas loin, on pourrait se dire, mais on est face à un mini Koweït ici, vous devriez être un maire heureux, vous pourriez avoir une manne ici, et pourtant vous n'avez pas l'air très chaud. Quoi.
Le retour financier, bon, ben, vous savez, on a déjà un puits de pétrole sur Dodemarie depuis une trentaine d'années. À ma connaissance, ça a dû...
Ça, c'est un puits conventionnel.
Hein, un puits conventionnel, oui, ça a dû nous rapporter des clopinettes, et ça va continuer à nous rapporter des clopinettes. Bon. Ici, on est en seuil de crise renforcé depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'on dit aux personnes, vous n'arrosez pas vos fleurs, vous allez faire des économies d'eau, bon, etc. Donc, des choses très importantes. On est obligé, vu qu'on a des pollutions assez récurrentes, on est obligé d'aller chercher de la flotte assez loin. Ça nous va coûter très cher, donc la flotte va augmenter aussi. Et puis, en même temps, bah, on nous annonce tout tranquillement qu'il va y avoir des sociétés qui vont être autorisées à prélever des millions de mètres cubes dans la nappe. D'où notre interrogation, cette eau, il faudra la prendre quelque part. Si on la prend quelque part, ça sera au détriment de la population, forcément. En plus, on va rejeter de l'eau qui va être fortement polluée. Cette eau fortement polluée, il va aussi falloir s'en débarrasser. Comment va-t-on faire? Et tout ça, on n'a aucune certitude par rapport à cela. Donc, d'où notre inquiétude. Donc, première réponse, retour sur investissement, j'allais dire, pour les communes, des populations zéro. Par contre, tous les problèmes, tous les risques sanitaires liés à ces pratiques... Eh bien, je pense qu'on va être fortement impacté. Et comme on a envie de rester sur notre petit territoire, c'est les Marnais, parce qu'on n'est pas si mal, alors on est très inquiet.
Jeanne Buisson, venez avec nous s'il vous plaît, parce que vous êtes donc la présidente de Nature Environnement 77, donc ici en Seine-et-Marne. Comment s'est passée la mobilisation citoyenne? Parce que là, les gens ont quand même pris conscience de ce qui pouvait se passer.
Ben, c'est fin 2010, en fait, on a été alertés par des arrêtés préfectoraux qui ont été pris. Déclaration de travaux du côté de Doux, Signy-Signé, Jouarre, et donc en fait qui concernait des travaux de forage sur le permis de Château-Thierry. On a donc découvert qu'un an auparavant, un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures avait été accordé sur ce secteur-là. On a découvert que ça correspondait à du pétrole dit non conventionnel, donc qui nécessitait la fracturation hydraulique pour être extrait. À ce moment-là, fin 2010, en même temps, on commençait à recevoir des informations par des journalistes sur ce qui se passait aux États-Unis et sur les conséquences. Il y avait aussi le film Gazland qui commençait à circuler. Et la mobilisation des associations s'est faite à partir de là. Elle a été suivie aussi ensuite par une mobilisation citoyenne avec la création de collectifs locaux, notamment en 77, puisque le 77, finalement, s'est directement trouvé concerné. En février 2011, il y avait une fracturation quasiment imminente à Doux, sur le forage de Doux.
Oula, là on a une très belle carte, avec plein de petits numéros, ça correspond donc aux différents puits qui...
Ce sont les différents permis de recherche, en fait. Alors, ceux qui sont déjà octroyés, ceux qui sont en cours d'instruction. Il y a aussi dedans les 14 permis de recherche qui sont sur le point d'être acquis, bien finalement, signés par le ministre.
Justement, d'un point de vue quand même démocratique, monsieur le maire, quelle est un peu votre réaction par rapport à ça?
Pourquoi ça suscite notre inquiétude à tous? C'est parce qu'on manque d'informations. La moindre des choses, c'est de donner l'information. Ensuite, il peut y avoir des débats.
Bien sûr, on peut comprendre d'ailleurs. On se dit, attendez, qu'est-ce qu'on a sous nos pieds? On a du pétrole. Donc, voilà.
Exactement. Si on a du pétrole, si on a les moyens de l'exploiter, bon, ça serait ridicule de ne pas en profiter. Le souci qu'on peut avoir, c'est que d'une part, effectivement, on est mis devant le fait accompli. D'autre part, on a l'impression qu'on avance finalement de manière masquée. Et puis, en parlant de démocratie, eh bien, si vraiment les populations sont... s'il n'y a aucun risque, je ne vois pas pourquoi on n'en parle pas. Et tout porte à croire que si on n'en parle pas, c'est qu'il y a quelques risques qu'on voudrait peut-être ne pas nous signaler tout à fait. Donc, élu ou pas, j'estime qu'on doit avoir des réponses avant de commencer tout travail. Moi, vous voyez, ce qui m'a choqué dans cette démarche, c'est qu'on nous a mis un peu devant le fait accompli. Et puis, le ministère lui-même se contredisait, parce que quand on va sur leur site, il y a quelques mois, on voyait encore qu'il y avait eu des fracturations de réalisées, mais officiellement, même les services de la préfecture n'étaient pas au courant ou alors ne voulaient pas nous le dire. Bon, vous voyez, quand découvre cluster numéro 3, bon, je me demande ce qu'on va faire là. En tout cas, on voit bien qu'il est interdit d'entrer, qu'il faut prendre tout un tas de... On ne faut pas fumer sur le site. Il y a plein de choses à faire ou à ne pas faire. On ne sait pas pourquoi.
On voit bien qu'on ne va pas faire une école maternelle ici tout de suite. Quoi. C'est
pas tout de suite. En tout cas, on l'espère.
Oui, c'est ça.
quand on vous dit, par exemple, c'est un phénomène NIMBY, pas de ça dans mon jardin, comment vous réagissez? Parce que ça peut être ça, quoi. Certains vont vous dire, attendez, vous êtes contre le progrès, vous êtes contre l'énergie, il faut savoir ce que vous voulez, etc. Enfin.
NIMBY, non, parce que, bon, notre or, c'est notre eau, mais c'est justement l'eau, c'est celle qui alimente les Parisiens, entre autres. Donc, protéger cette ressource eau et s'inquiéter, justement, des pollutions qu'elle risque de subir, ce n'est pas faire du NIMBY.
Michel Riotto, est-ce qu'on est sûr de ce qui se passe lorsque l'on fort?
Non, absolument pas. Nous, le public ordinaire, même les associations avec ses experts propres, ne savent pas. Ce sont les foreurs qui analysent sur la longueur du forage tout ce qui passe. Ils ont des géologues avec eux. Donc c'est eux qui savent exactement ce qu'il y a sous la terre. Mmh.
Donc ça veut dire qu'ils sont un peu jugés partis,
ouais. Ils sont jugés partis. Ça, il n'y a pas de problème. Et nous, on a beaucoup de mal à avoir les informations.
Merci donc à Jeanne Buisson de Nature Environnement 77, à Marie-Paul Duflo, à Daniel Salomon, à Serge Rossier-Rollin, donc maire de Donne-Marie-Nontilly. Là, vous avez encore une carte que l'on peut trouver d'ailleurs sur le site du ministère. Hein. C'est pas du tout planqué, Saint-Michel Riotto.
Elle a été publiée en juillet 2010, oui. Et on peut le trouver sur le site du ministère de l'Environnement. Elle comprend tous les permis de recherche. Alors, permis en production, hein, donc les permis qui permettent de produire de l'huile de schiste, enfin de l'huile
non, du pétrole. Mais la conventionnelle, c'est-à-dire avec une poche classique.
Classique.
D'accord.
Les permis d'exploration et les permis en instruction. Et lorsqu'on regarde cette carte du ministère, on s'aperçoit qu'elle couvre les deux tiers de l'Île-de-France. Et elle s'étend évidemment sur le bassin parisien, sur l'Est et sur Château-Thierry.
Oui, c'est ça. Parce que donc il y a aussi ces zones de prospection de Château-Thierry. Ça bouge aussi beaucoup dans le coin. De même que vous nous écoutez peut-être aussi sûrement dans le département du Gard, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Hérault. Là, vous êtes davantage concerné pas forcément par l'huile de schiste, en tout cas par les gaz de schiste. Dans l'Arzac aussi, du côté de l'Aveyron. Donc toutes les zones karstiques sont tout à fait concernées aujourd'hui. Alors, moi, je voulais aussi donc avoir peut-être un autre son de cloche. J'ai essayé d'appeler donc les gens de chez Vermilion. Vermilion, c'est donc ces Canadiens avec leur siège à Calgary qui produisent, on va dire, 75% du pétrole aujourd'hui donc en France. Ils sont spécialisés, on va dire, dans les sous-sols un peu compliqués, dans les niches. Bon, donc on n'a pas pu les avoir, quoi. Pas souhaité forcément répondre. Enfin, c'était pas très très simple de les avoir. Et donc j'ai eu en ligne alors Bernard Tardieu et ingénieur membre de l'Académie des technologies. Et donc, dites-nous, s'il vous plaît, quelles sont les craintes, on les a entendues, donc les craintes sur l'eau, sur les polluants, sur la multiplication des plateformes, parce qu'il faut aussi multiplier ces plateformes pour aller chercher donc, soit ces gaz ou bien soit ces huiles de schiste. Pour vous, donc, quels sont les problèmes?
D'abord, pour l'instant, la loi interdit la fracturation hydraulique. Donc, en principe, la loi n'interdit pas de faire des reconnaissances pour savoir si on a de l'huile ou du gaz sous les pieds ou si on n'en a pas. C'est évident que c'est dommage que les Français aient découvert ce qui aurait pu être considéré comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire on a des hydrocarbures en France, et les découvert à travers le film Gazland qui présente, une certaine justesse, ce qui s'est passé aux États-Unis, qui n'est pas très brillant du point de vue technologique. Simplement, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, le prix du gaz a été divisé par 3. Les États-Unis étaient importateurs de gaz, ils sont devenus exportateurs de gaz. L'organisation globale du gaz dans le monde a été changé de ce fait.
Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, Gazland donc, correspond à une réalité, on va dire, américaine d'une époque, mais n'est pas forcément la réalité de demain si on doit découvrir du gaz ou de l'huile de schiste.
Moi, j'ai trouvé incroyable qu'aux États-Unis, à la suite d'une demande de la Chambre des représentants, on découvre, il y a un an et demi, que 600 produits interdits avaient été injectés pendant 10 ans. Ça, on se dit, mais que fait la police aux États-Unis? Par ailleurs, des puits mal cimentés, on en a vu aussi dans l'offshore avec l'énorme accident dans le golfe du Mexique. On sait, par exemple, contrôler et réaliser des cimentations de puits correctes. Donc il n'y a aucune obligation d'injecter des saloperies dans le sol. Et on peut dire que les technologies, elles sont connues depuis longtemps.
Alors, quelle est la position, on va dire, de l'Académie des technologies où, a priori, vous n'avez rien à vendre, hein, on est bien d'accord?
Notre position, c'est de dire on a peut-être un potentiel sous les pieds. Et on ne sait pas comment sera le futur. Alors on peut dire, s'il y a du gaz partout, il va être bon marché, autant l'acheter à l'extérieur. Mais le moment venu, les tensions seront fortes, les pays asiatiques vont en demander de plus en plus, on a tout intérêt à savoir ce qu'on a, même si on ne l'exploite pas tout de suite, on a vraiment intérêt à savoir ce qu'on a sous les pieds en huile et en gaz, pour avoir le moment venu des arguments de négociation. Ça nous paraît très imprudent de ne pas connaître notre potentiel, même si on ne l'exploite pas dans l'immédiat.
Monsieur Tardieu, concernant donc les pollutions des eaux et aussi ces fameux produits chimiques que l'on injecte en plus du sable, quelle est votre réponse ?
La fracturation hydraulique, c'est très classique, on en fait depuis longtemps, notamment pour améliorer les forages d'eau. Si on forge de l'eau dans le granit, on fait de la fracturation hydraulique. Il n'y a aucune nécessité d'injecter des cochonneries. Donc normalement, on injecte des produits fluidifiants, donc en gros du savon, si vous voulez. Souvent, on injecte de l'acide qui se dissout ensuite dans l'eau. Ce sable fin ou ces poudres fines, vous avez compris qu'elles servent à ce que les fissures ne se referment pas. Normalement, quand on fait la fracturation dans une roche, la fissure s'ouvre et reste ouverte. Là, comme on est dans des argilites, donc des roches qui sont dures mais plastiques, ça se referme. Donc elles empêchent de se refermer en glissant des grains de sable dedans, de façon à ce que l'huile ou le gaz sorte progressivement.
Et concernant la consommation d'eau, qui est quand même extrêmement importante, est-ce que là-dessus on peut faire des progrès ?
D'abord, on peut injecter moins d'eau. Ensuite, alors, on doit la récupérer. Alors pour ça, il faut que les géologues soient prudents. Il ne faut pas trop s'approcher. Enfin, soit prudent, fasse leur boulot. C'est-à-dire qu'on sait le faire en géophysique, on sait parfaitement suivre en géophysique la progression des zones fracturées. Il ne faut pas s'approcher d'une faille, parce qu'à ce moment-là, l'eau va ailleurs, et l'eau peut être perdue. Si on remonte l'eau, ce qui est normal, et si on la traite, ce qui est nécessaire, il n'y a aucune raison de gâcher de l'eau. Donc on peut dire, s'il y a un sujet qui peut être délicat, tout le reste on peut le traiter, c'est que quand on injecte de l'eau en profondeur, et qu'on remonte de l'eau, on sait ce qu'on injecte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on remonte. C'est-à-dire que quand on va faire une circulation d'eau profonde, on peut se retrouver, mais ça on le sait déjà, avec soit des contenus radioactifs, hein, je vous parle très franchement, soit des métaux lourds ou des choses comme ça. L'analyse de détail, elle doit non seulement porter sur ce qu'on injecte, ce qui est très facile à contrôler, et pour lequel les recherches sont en cours pour améliorer encore leur non-nocivité, et puis ce qu'on ressort, qui là doit faire l'objet d'une analyse à chaque fois.
Bernard Tardieu, donc ingénieur et membre de l'Académie des technologies. C'est intéressant aussi d'avoir cet autre aspect hein, sur ce problème. Michel Riotto, donc je rappelle, président d'Île-de-France Environnement.
Oui, moi je suis un peu surpris par ces réactions parce que la fracturation hydraulique n'est pas anodine. Pour remonter...
Ouais, c'est pas ce qu'il dit. Hein,
oui, elle n'est pas anodine.
Je vais même vous dire aussi qu'hors micro, je comprends aussi assez bien que les gens se soulèvent et qu'ils n'aient pas envie d'avoir ça chez eux. Hein, donc.
Pour remonter ce pétrole non traditionnel, il faut émettre beaucoup de produits pour fluidifier ce pétrole. Il faut beaucoup d'eau. À chaque fois que vous remontez quelques gouttes de pétrole, il faut remonter aussi quelques milliers de gouttes d'eau en même temps. C'est de l'eau diluée, hein, c'est du pétrole qui est extrêmement dilué que l'on remonte. Donc, et alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'actuellement, c'est une dépêche de l'AFP du 22 février 2012, donc très récente, l'Europe veut pénaliser le pétrole sale venant des sables bitumineux oui. du Canada en raison de son impact négatif sur l'environnement. C'est pas le cas de ce qu'on trouve en Seine-et-Marne ?
Alors ça doit être un peu différent quand même, parce que quand on voit les ravages de ce qui se passe dans l'Alberta, c'est vrai que c'est complètement dément aujourd'hui. Donc certains vous disent, oui mais attendez, c'est pas l'Alberta, c'est pas la même chose non plus, c'est pas ici ce bitumineux. Réaction, bah tenez, Franck Roland, parce que vous êtes aussi avec nous, vous allez intervenir peut-être davantage sur la seconde partie concernant les décharges, mais quand même, vous êtes conseiller municipal à Villeparisis, vous êtes co-responsable, co-responsable du collectif Stop Déchets 77, voilà, c'est pour ça que vous intervenez, mais quand même, vous suivez aussi dans ce département de Seine-et-Marne, l'huile de schiste. Petite réaction de votre part.
Tout à fait, oui, simplement, il y a des détails très techniques et très intéressants, mais je crois que derrière cette question de huile gaz de schiste, il y a la question de quel modèle on veut en termes d'énergie. Et je crois qu'évidemment, on sait qu'il y a peut-être du gaz, de l'huile qui pourrait permettre de perdurer un système avec des énergies fossiles, mais la question qu'on peut se poser pour l'avenir et pour nos enfants, c'est est-ce qu'il faut impérativement poursuivre ces énergies fossiles, l'utilisation de ces énergies fossiles, plutôt que de se mettre dès maintenant à la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables.
Non, mais c'est exactement ça. C'est quelle société voulons-nous ? C'est-à-dire qu'on ne quitte pas forcément ce modèle carboné, donc avec ces fameuses huiles. Juste un chiffre très intéressant. On disait qu'il y avait 1% aujourd'hui de la production de notre consommation qui était assurée par la France. Hein, en ce qui concerne, je parle bien du pétrole. Si on devait extraire les huiles de schiste, quels sont les chiffres ? Voir si ça se recoupe avec ceux du BRGM aussi. Donc...
Oh, ça sera de l'ordre de quelques pourcents, 1 ou 2%. C'est rien, c'est négligeable. On importe 51% de notre énergie sous forme d'énergie fossile en France, alors que nos énergies renouvelables, c'est simplement 6% entre le bois et l'hydraulique, essentiellement. On n'a rien d'autre.
Nous allons passer donc toujours dans la Seine-et-Marne à un autre sujet, donc celui des décharges du BTP. Ce sera juste après Benabar. Voici les râteaux.
On a tous essuyé les refus. Ça tanne le cuir des séducteurs. Ça peut faire très mal, le sais-tu, que c'est vulnérable, un dragueur. C'est très salissant, l'amour propre, surtout quand le lion prend la fuite pour séparer une antilope qui d'un coup de patte le décapite. Y a le râteau héroïque qui se ramasse en public. Le râteau coince sur les i, t'es lourd maintenant, ça suffit. Le râteau dit d'Alzheimer, c'est la même fille que tout à l'heure. Le râteau de la méduse pour le jeu de mots, je m'excuse. Y a le râteau bouleversant, cette fille tu l'aimais vraiment. Et le râteau superflu, au fond elle te plaisait plus. Le râteau qui coûte un genou parce que ta bague elle s'en fout. Si elle te gifle le chapeau, c'est la cerise sur le râteau. Au jeune loup qui renonce, le vieux explique avec sagesse. Pour 20 anglaises qui te repoussent, il y en a bien une qui dira yes. En boîte de nuit, ça devient extrême quand tu les reçois à la chaîne. Tout le monde est bien témoin. T'es prêt à tout, t'es mort de faim. Et la honte, ça te fait plus rien. Y a le râteau qui se la pète quand la fille est une vedette. Le râteau anti-grosse tête, parce que c'est toi la vedette. Le râteau du coming out, qui est un râteau comme les autres. Celui qu'on veut oublier, qui souvent est le premier. Le râteau du romantique, qui le rumine en musique. Le râteau des mecs pas bien, avec la femme des copains. Et le râteau de l'erreur, parce qu'en fait c'était sa sœur. Le râteau à répétition, quand elle dit non c'est...
Non !
Bah voilà. Doivent-elles devant leurs copines de leur dédain au vitriol nous arracher le cœur de la poitrine avant de rouler dessus en bagnole, alors qu'un sourire bienveillant dirait avec ménagement c'est pas la peine qu'on perd notre temps, qu'on est gentil mais que va-t'en.
Tu me lâches maintenant.
Y a le râteau du mari, c'est ma femme, t'es gentille. Le râteau du hérisson, ça pique mais c'est trop mignon. Le râteau de Georges Clooney, s'il existait ça se saurait. Quant au dernier des râteaux, rassure-toi c'est pas de si tôt. Le râteau du gentleman, toujours poli avec les dames. Le râteau condescendant, bon mais pour qui elle se prend. Si t'aurais pu éviter, il suffisait de pas lui parler. Le râteau qui t'inspire,
t'en feras une chanson pire.
Ah bah c'est marrant, ouais, bah c'est pas marrant, c'est... y'a rien de marrant maintenant. Hein, bonsoir. Oui, bah me parle pas. T'as raison, fais comme si j'étais transparent. Voilà. Tourne-moi le dos et attends, voilà. Oh, mais c'est joli ça, je peux toucher, non? Ok. Ne tape pas, arrête. Arrête, une griffe. Non, j'y vais, bah je. Bonsoir. Non, oui, je dépose? Non, d'accord. Très bien.
Oh! Oh! Ah! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah, mais alors, mais bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, et avec Valérie Ayestarrail, ça nous fait un enchaînement subtil dont on ne se lasse absolument pas sur les décharges. Donc après, effectivement, les poubelles que nous allons vider. Donc, on le rappelle, hein, on parle aujourd'hui beaucoup de l'Île-de-France, mais on sait aussi que ces sujets-là concernent d'autres parties donc, de la France. Donc on peut prendre un certain nombre d'informations. Nous sommes là dans ce département de la Seine-et-Marne. On a parlé de l'huile de schiste, 5900 km², département donc... Assez agricole, mais de plus en plus urbanisé. Tenez, on était donc pas loin de Clé, même à côté de Clé-Souilly, et voici le début de ce reportage.
Alors, nous sommes à Clé-Souilly, nous sommes derrière la décharge la plus grande de France de déchets ménagers et de déchets industriels. Si nous allons un petit peu plus loin en face, là, de l'autre côté de la Nationale 3, nous allons trouver une décharge de déchets inertes. Ouais. Si nous nous rapprochons de Villeparisis, un petit peu plus vers l'ouest, nous allons avoir la décharge de déchets dangereux. Autrement dit, on a sur ce tiratoire-là les trois types de décharges qui existent en France. Nous recevons effectivement beaucoup de déchets des départements voisins et notre souci, c'est justement qu'il y ait ce que nous appelons un rééquilibrage territorial, à savoir que chaque département se soucie du devenir de ses déchets et ne les envoie pas en Seine-et-Marne.
Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Grenelle disait « on n'exporte pas nos déchets ». Or là, on va vraisemblablement exporter nos déchets en dehors de l'Île-de-France. On va déborder tellement avec le Grand Paris et le creusement de la double boucle de métro automatique.
On va beaucoup forer là aussi.
Alors donc, oui. Dans tous ces forages, ce qu'on voit se dessiner, c'est qu'on va aller remplir des carrières qui nous amènent des granulats venant par exemple du Massif central.
Donc on va faire voyager tout ça.
On va faire voyager tout ça. D'accord. Et donc soit le camion, mais nous on préférerait le train et la voie fluviale.
Voilà, vive les déchets en camion. Franck Relland est avec nous. Merci à France Bleu Drôme Ardèche, bah justement, là, vous avez du gaz de schiste sous les pieds, de vous accueillir, Franck Relland. Je rappelle que vous êtes délégué à la jeunesse à la mairie de Villeparisis, mais aussi co-responsable du collectif Stop Déchets 77. Bon, 49% de la surface de l'Île-de-France est composée de la Seine-et-Marne, donc c'est quand même extrêmement important, hein, 5900 km². Pourquoi, en fait, c'est devenu, là, entre guillemets, mais quand même une décharge, entre autres, du BTP, ce département de la Seine-et-Marne, Franck Relland?
Ben je crois que tout simplement, il faut souvent de la place pour les déchets, pour les placer. Et il se trouve que la Seine-et-Marne dispose toujours de réserves foncières importantes, pas trop chères. Et à l'époque des premières décisions sur ces décharges, ben tout simplement, il n'y avait pas non plus de grande population. Donc peu aussi de gêne, si on voit l'aspect positif, mais peu aussi d'opposition sur ces extensions et ces créations de décharges.
C'est-à-dire que dans les années 1960, donc, il y a eu un schéma, bien sûr, de développement. Et on disait que le côté industriel, c'était pour la Seine-Saint-Denis. Je fais très simple. Hein, le tertiaire, c'était en gros pour l'Ouest. Et la logistique et, on va dire, le côté décharge, peut-être dans ce département agricole où il n'y avait pas forcément énormément de monde à cette période.
Voilà, je crois que c'est ce choix qui s'est fait, qui perdure finalement. Et toute la difficulté, c'est effectivement de pouvoir changer de ce principe de répartition territoriale.
Alors, il y a toutes sortes de déchets, bien sûr. Oui. Mais là, on va parler donc de ce qu'on appelle les déchets inertes, c'est-à-dire ceux du BTP, briques, béton, céramique. Aujourd'hui, on va dire en France, on ne le sait pas forcément, mais on produit... Alors, au total, en gros, 830 millions de tonnes par an de déchets. Dessus, il y a 30 millions de déchets ménagers. Le gros volume, c'est le BTP qui doit frôler les 400 millions de tonnes. Et puis, le reste, si j'ose dire, c'est du déchet soit industriel, soit du déchet agricole. Et lorsque l'on passe donc, en Seine-et-Marne, très beau département par ailleurs, on voit plein de... Non, mais parce que c'est vrai, non, mais... oui, pas non plus désespérer les gens, quand même, loin de là. On voit très souvent plein de tumulus, oui. de merlons. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a là, Franck Relland?
On pourrait paraphraser, disons que c'est caché ce déchet qu'on ne saurait voir, mais là, désormais, on le voit très bien. Très concrètement, ce type de déchets, ça représente 30% en Seine-et-Marne qui sont accueillis et traités sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, et elles sont notamment déposées dans des centres de stockage, mais des carrières. Donc, et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec notamment le Grand Paris qui arrive et le Grand Roissy qui s'étend, on va voir se poursuivre la création ou l'extension de ce type de déchets et d'accueil de décharges, parce qu'on va les appeler peut-être comme ça, avec même si la région souhaite faire un plan d'élimination qui s'appelle le PREDEC, mais en attendant que la décision se prenne d'un
c'est un plan régional d'élimination, voilà, des déchets du bâtiment. Hein.
Ça doit tout être à ça, fait. Oui. Et c'est vrai qu'il doit normalement être mis en place de mémoire de 2013-2014, mais en attendant, il y a une accélération des demandes d'extension, de création de ce type de décharge.
Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, les opérateurs se disent tant que ce n'est pas passé, cette affaire-là, allons-y. Quoi. Enfin,
voilà, les choses s'accélèrent.
Oui, oui. Et alors, sinon, il y a encore une réserve foncière qui est importante. Qu'est-ce que l'on peut faire? Votre souhait, vous, ce serait quoi, vous, monde associatif? Ce serait de pouvoir répartir mieux les déchets ailleurs
ou... Oui, je crois qu'il y a l'idée de mieux répartir sur l'ensemble du territoire de France. Il y a l'idée aussi qu'il puisse y avoir, puisque ces décharges ne sont pas ce qu'on appelle des classées protection environnement, donc il y ait notamment la mise en place d'enquêtes publiques lorsqu'elles sont créées ou lorsqu'elles s'étendent.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'enquête publique, c'est-à-dire que c'est au libre choix de qui ? Du maire, du préfet ?
Du préfet, ouais. Avec... Là, qui autorise d'ailleurs les extensions aux créations. Donc là, c'est vraiment effectivement avec pas forcément une information. Il n'y a pas d'enquête publique. Donc la population, là aussi, n'est pas forcément avertie en temps et en heure de ce qui se prépare.
Et de plus en plus, les habitants, bon, je sais qu'aujourd'hui, l'environnement, ça passe vraiment gentiment à la trappe, mais se mobilisent quand même sur ces sujets déchets.
Alors, ça commence à se mobiliser, mais c'est vrai que le thème est un petit peu, sans faire de mauvais jeu de mots, rebutant, enfin intéressant. Et donc, il y a une difficulté, même s'il y a un gros travail des associations, il y a un gros travail de mobilisation citoyenne, tout simplement parce que peut-être, en tout cas, chacun se sent un petit peu responsable du fait qu'il y ait des déchets, puisque on a tous une poubelle à la maison.
Bien sûr, oui. Alors, je tiens à signaler un très bon article de Gilles Vandecotte qui était paru le 9 février récemment, donc dans Le Monde. Déchets, le BTP, donc en fait des montagnes. Mais là, on voit qu'il y a plus de 500, des 1300 décharges qui reçoivent donc des gravats du secteur qui sont encore illégales. Donc voilà, il y a ça aussi.
Pourquoi ça bouge un petit peu plus sur ces déchets, c'est que la Seine-et-Marne accueille notamment sur certains déchets plus de la moitié, voire 60% des déchets. Sur l'incinération, parmi les deux incinérateurs dangereux, il y en a un en Seine-et-Marne, et parmi les installations de stockage en déchets dangereux, il y en a deux en Île-de-France, dont un à Villeparisis. Donc tout ça fait que ça s'additionne et ça commence à faire un cocktail citoyen intéressant de mobilisation.
Et puis vous avez donc alors ça c'est autre chose. C'est toujours le sujet, on va dire, des ordures, mais là ce ne sont pas ceux du bâtiment. Vous avez un nouvel incinérateur à Montereau et en gros il faut le nourrir. Donc.
Voilà, il y a la logique d'installation où il faut bouffer du déchet pour parler vulgairement et qui va à l'encontre finalement de la politique de prévention qui serait nécessaire.
Michel Riotto.
Oui. Il faut à tout prix réduire nos déchets. Et la réduction, elle ne se fait pas uniquement dans les ménages. Il faut aussi faire prendre conscience à tous nos distributeurs et au monde économique que c'est à eux aussi de faire des progrès. Le suremballage, par exemple, fait d'énormes quantités de déchets. Et donc, réduire, c'est réduire à la source. Sinon, on n'y arrivera pas.
Alors, on va saluer le travail à la fois de l'ORDIF, donc l'ORDIF, sur l'Île-de-France, c'est-à-dire l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France.
Qui fait un travail excellent, mais on a énormément de mal, et l'ORDIF a beaucoup de mal, à savoir ce que la production des déchets du BTP, bâtiments et travaux publics, avec des évaluations.
Franck Roland.
Oui, peut-être. Pardon. Avec un élément nouveau aussi en termes de déchets, c'est que nous accueillons avec les nouvelles dispositions réglementaires, donc notamment dans le site de déchets dangereux de Villeparisis. Malheureusement, la loi a baissé un petit peu les normes et aujourd'hui, on accueille des déchets à radioactivité naturelle renforcée qui...
Excusez-moi, parce que dès qu'on dit radioactif, les gens paniquent. Bon, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est les déchets hospitaliers, l'amiante ?
C'est des déchets aussi. Amiante, oui. De sites où on a produit de l'engrais, notamment à Fertiladour dans le sud-ouest. Et si vous voulez, avant, c'est des résidus radioactivité naturelle renforcée étaient accueillis dans des sites spécialisés de l'ANDRA. Aujourd'hui, pour diverses raisons, ils sont accueillis dans ce site de déchets dangereux qui habituellement n'accueillait pas ce type de déchets. Mais c'est vrai que ça revient moins cher de les
amener. C'est ça. Sur diverses raisons, c'est surtout parce que ça coûte moins cher, a priori.
Ça coûte moins cher. Mais c'est vrai que celle-là aussi, cette information-là fait un petit peu la poubelle, le déchet qui fait déborder la poubelle. Voilà. Ça n'est marre.
Bon, en tout cas, un grand merci pour ce point. On a mis aussi donc sur le site de CO2 Mon Amour le site de la CNID. On remercie aussi la Dancar parce qu'il y a un travail formidable avec cette association, avec Mireille Lopez donc à la tête là-dessus. Et puis donc on va poursuivre ce voyage en Île-de-France et on va voir comment le terrain se grignote de plus en plus. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder.
I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree.
Ah bah c'est très frais, c'est très nature. Fool's Garden, Lemon Tree, choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Nous sommes toujours dans l'Île-de-France. Je disais qu'il se grignote, non, elle ne se grignote pas elle-même. Enfin, elle est grignotée, cette Île-de-France, on le rappelle, hein, 11-12 000 km², plutôt 12 000 d'ailleurs. 8 départements, 11 600 000 habitants. Le Grand Paris qui arrive, donc qui va aussi rejeter ses déchets. 20% de la population. Et donc, on le disait au début, Michel Riotto, bah oui, comment fait-on pour freiner ? Et quelques exemples aussi de cet étalement urbain.
Oui, alors si on prend la France totale, en 50 ans, on a perdu 20% de la surface agricole utile. 2,5 millions par extension de la ville et 4,5 millions par extension de la forêt. La forêt ne progresse plus actuellement, mais par contre, la ville progresse. Et si la tendance continue, les statisticiens de l'Institut national de la recherche agronomique disent de l'ordre de 12%, donc baisse encore de cette surface agricole en 2050, eh bien la France, à cette époque-là, sera en déficit de production de denrées alimentaires.
Non, mais ça je crois que les gens ne percutent pas vraiment aujourd'hui, parce que ce n'est pas un problème. On va tous plus ou moins dans les supermarchés, ou j'espère, des AMAP, ou bien chez votre maraîcher local, même si ce n'est pas une AMAP, ce n'est pas grave, donc localement. Mais il y a ce problème alimentaire aujourd'hui qui semble ne pas exister, mais qui demain, à terme, risque d'exister.
Demain, à terme, risque d'exister, puisque si le coût du transport qui devrait normalement monter, puisque là, on sous-évalue totalement dans le monde entier le transport, alors là, à la fois sous la forme du transport par bateau et surtout le transport par avion. Le fret voyage avec les voyageurs, donc on ne le voit pas, ce fret.
Et alors, vous me disiez aussi que quel était le rôle de Rungis sur ces départements tels la Seine-et-Marne, mais sur d'autres où il y avait beaucoup de diversité, on va dire, agricole. qu'en est-il ?
Il y a 50 ans, on trouvait en Seine-et-Marne des tas d'espaces de maraîchage, de maraîchiculture. Et ces espaces ont disparu parce que le Rungis importe à des coûts très, très inférieurs aux coûts de production de nos maraîchers franciliens. Et donc, ils ont complètement... Un exemple très simple. Je suis fils, moi, de fleuriste. Dans le temps, la Seine-et-Marne était la zone de production des roses. La rose de Provins est bien connue. On fait de la confiture de rose à Provins. Eh bien, la rose a disparu. Elle est où ? Elle est produite au Kenya. Elle est produite en Hollande dans des serres qui sont totalement subventionnées par des coûts bas en énergie, etc. Donc, on a complètement éliminé toute la production en denrées agricoles, denrées alimentaires en Île-de-France.
Alors, le rôle des associations, donc Île-de-France Environnement, donc on le rappelle, qui fédère plus de 380 associations aujourd'hui, c'est de veiller à cela, d'essayer d'avancer alors juridiquement, de rencontrer les gens. Vous avez réussi, on va dire, sur Brétigny, sur l'ancienne zone militaire, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, cette zone de Brétigny, 750 hectares, nous sommes battus et là, nous avons eu le soutien de la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour
c'est obtenir... Son secteur, oui.
Hein, c'est son secteur,
c'est son secteur aussi, comme députée.
Elle était très concernée pour obtenir au moins 75 hectares de maraîchage sur les 750 qui sont redonnés par l'État aux quatre communes environnantes.
Alors, ce n'est pas forcément le cas partout, parce que nous allons donc rejoindre Bernard Loup, qui est le président de Val d'Oise Environnement. Nous sommes au sud de Roissy, 1000 hectares de terres agricoles donc, qui s'étendent entre l'autoroute A1 et la départementale 317. Et là, donc, racontez-nous, que se passe-t-il, Bernard Loup ?
On en parle beaucoup parce qu'il y a un projet d'urbanisation dont il est question depuis un certain temps et qui se précise. Où on a appris, à l'occasion du débat public sur le Grand Paris, que le projet, la locomotive pour urbaniser 250 à 300 hectares du triangle de Gonesse était un projet de centre commercial porté par le groupe Auchan, qu'on appelle Europa City, sur 80 hectares, qui nous promet 10 000 emplois et qui revendique une gare du Grand Paris. C'est d'ailleurs ce projet-là qui a fait que une gare du Grand Paris est prévue sur l'espace agricole du triangle de Gonesse en plein champ.
Quelles sont les réactions des élus dans ce secteur ?
Les réactions dans ce secteur, le secteur autour de Roissy, sont très anciennes, depuis l'existence de Roissy, et où c'est la destruction complète des espaces agricoles tout autour de Roissy pour les projets les plus fous, les plus mégalos, et celui-ci en est effectivement un.
Mais dès que l'on dit qu'il y a des emplois à la clé, en général, le secteur agricole, ou bien on va dire l'environnement, passe un peu à la trappe, non ?
Effectivement, c'est toujours ce qui est mis en avant, le nombre d'emplois. Jamais on ne vérifie par rapport aux prévisions ce qui est effectivement réalisé, et surtout on ne compte jamais les répercussions et les destructions d'emplois entraînées par ces soi-disant créations d'emplois. De toute façon, les habitants ne se font pas trop d'illusions sur ces emplois. Ils ont l'habitude, depuis 30 ans que Roissy existe, c'est toujours le même discours, il va y avoir des emplois, mais le chômage, il est identique, sinon plus élevé qu'ailleurs. Ça ne bénéficie absolument pas au territoire.
Bernard Loup, aujourd'hui, il y a un agriculteur sur ce fameux triangle en question qui cultive des céréales.
Donc, il y a plusieurs agriculteurs.
Voilà.
Il y en a 5 ou 6 exploitants.
Ça veut dire qu'ils vont être délogés après ou...
Sur les surfaces qui sont urbanisées, ils seront délogés. Ils ne cultivent pas uniquement sur cette partie-là du triangle qui sera urbanisée, mais ça réduit leur surface d'exploitation, donc c'est leur outil de travail qui est mis en cause, et puis ça en décourage un certain nombre aussi. C'est-à-dire que les agriculteurs ont besoin de savoir où ils vont, d'avoir une certaine garantie dans la durée sur leur exploitation, mais il faut que la collectivité dise clairement les espaces qui seront maintenu à l'agriculture pour les besoins de la production agricole et surtout les besoins alimentaires de l'Île-de-France.
Bernard Loup, président donc de Val d'Oise Environnement, qui nous parlait du triangle de Gonesse. La plaine de Montesson aussi dans le Val d'Oise avec ses 5 millions de laitues, qu'est-ce qu'elle
veut dire ? Oui, alors la plaine, quand on est dans cette plaine, ce qui est magnifique, avec des maraîchers partout, on voit les tours de la défense. Mmh. Donc les tours de la défense, elles ont envie de venir et de se rapprocher. Et donc nos 5 millions de lectures, elles sont en danger. Mmh. Et c'est là où l'environnement et le monde agricole se rapprochent. Puisqu'on défend, en Ile-de-France, nous défendons le monde agricole. Et les agriculteurs doivent le comprendre.
Et vous l'avez fait sur le plateau de Saclay aussi.
On l'a fait sur le plateau de Saclay. On a réussi à sanctuariser 2300 hectares. Et 2300 hectares pour les productions agricoles.
Et j'ai envie de terminer aussi quand même par une bonne nouvelle pour la Seine-et-Marne, donc avec vous Franck Roland. Création, donc la région entérine le nouveau parc naturel régional de l'Abri et des Deux Morins.
Voilà, tout à fait. Juste, je voulais simplement revenir sur l'étalement urbain. Oui. C'est quand même extrêmement compliqué. Là, c'est l'élu qui parle de trouver l'équilibre entre la nécessité de logement pour tous, le maintien des terres agricoles, le maintien d'espaces naturels et de faire une ville dense mais à taille humaine. C'est très, extrêmement difficile. Voilà, je voulais le préciser. Et puis, petite victoire sur ces. Il y a une véritable prise de conscience parce que l'Agence des espaces verts de France a acheté notamment dernièrement une cinquantaine d'hectares, par exemple, du côté de Chelles, pour les protections d'espaces naturels mais aussi des terres agricoles. Et on voit aussi des villes réfléchir sur le périurbain, l'agriculture. Alors, pour le PNR, c'est 120 communes qui ont désormais adhéré à un syndicat. C'est une région qui a acté officiellement cette création avec le soutien du département, avec une perspective de développer, de protéger évidemment par le développement des activités économiques mais tout en respectant la nature et puis développer le tourisme, mais le tourisme local et de proximité, donc une contre-réponse peut-être à Village Nature juste à 20 km en dessous.
Merci à vous Franck Roland, merci beaucoup Michel Riotto et merci à tous, à Yann Bouillot et Nicolas Slimani à la technique, à Stéphane Combe, à Valérie Ayestaraï qui a réalisé l'émission, à Patrick Deschamps de l'Isère, à Albert Hauque du Maine-et-Loire, à Jean-Baptiste Audibert et à Anne Gouzon donc, qui a bien nourri les sites de CO2 Mon Amour, donc vous en aurez beaucoup. La semaine prochaine on va parler de la montagne, peut-être que vous revenez de la montagne, on va parler de la montagne, on va essayer de se projeter. La montagne en 2040, hein, énergie, climat, réchauffement climatique, qu'est-ce que ça peut être demain? Je vous retrouve demain avec la Tulu Montilou à 19h54, juste après les petits bateaux. Et puis dans quelques instants, ce sont les liaisons heureuses de Colomb-Schneck. Où est-ce qu'on va? Du côté de Namur, on m'a dit, je crois.